Histoire, actualité comme tous les vendredis, actualité des fictions d'histoire comme chaque premier vendredi du mois, théâtre, roman et bande dessinée aujourd'hui. Table ronde fiction avec Séverine Attin de la Fabrique de l'Histoire, Caroline Douki, maîtresse de conférence à Paris 8, Clyde Plumosine, chargée de recherche au CNRS au Centre Roland Mounier et Pascal Horry, professeur d'histoire à Paris 1. Pour commencer, une pièce de théâtre qui se joue jusqu'au 6 juillet à l'Espace Cardin à Paris. Il s'agit de Mary Said What She Said, pièce de Robert Wilson sur un texte de Daryl Pinkney avec Isabelle Huppert dans le rôle titre qu'il joue donc Mary Stuart en l'occurrence. Une bande dessinée autour de six grandes figures de ce que Jean Dubuffet a baptisé l'art brut. Cette bande dessinée s'intitule « Enferme-moi si tu peux ». Elle est donc réalisée par Pandolfo et Risberg, donc chez Casterman. Et un roman, enfin, néo-zélandais, un roman de Fiona Kinman qui s'intitule « Como cinéma », traduit de l'anglais par Dominique Gouablanquet chez Sabine Vespisser. Et puis pour terminer, comme chaque vendredi, c'était à la une avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, la suite du tour du monde en 1901 d'un aventurier sur les pas de Phileas Fogg, un tour du monde en 63 jours, lu par Elsa Dupuis.
Sire, bon roi de France, par ma cousine reine d'Angleterre, après 20 ans, je suis enfin condamné à mort. Je souhaite qu'après ma mort, mon corps soit transporté dans votre royaume, où j'ai eu l'honneur d'être reine de France. Je dois être exécutée demain, en tant que criminelle, à 8 heures du matin. Je n'ai pas eu le temps de vous révéler pleinement tout ce qui s'est passé. Mais s'il vous plaît d'entendre mes servants, dont le cœur est brisé, vous entendrez la vérité. Que Dieu soit loué, je méprise la mort. Et c'est en bonne foi que j'affirme mourir, innocente de tout crime. Je ne reconnais aucun procès ni jury dans ce royaume dont je suis héritière. La religion catholique et le maintien du droit à la couronne que m'a donné Dieu sont les deux raisons de ma condamnation. Et pourtant, ils ne me permettront pas de dire que c'est pour la religion catholique que je meurs, car ils craignent un changement pour la leur. Ils ont été très insistants pour que je reçoive la doctrine de leur ministre appelé à cette fin.
Bonjour Caroline Douki, bonjour à vous, Pascal Horry.
Bonjour.
Bonjour Clyde Plumosil.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Séverine Attin.
Bonjour.
Vous nous présentez donc cette pièce de Robert Wilson sur un texte de Daryl Pinkney, une musique de Ludovico Einaudi, une création du Théâtre de la Ville qui s'intitule Mary Said What She Said, avec Isabelle Huppert dans le rôle de Mary Stuart.
Oui, Mary va, Mary vient, Mary va et vient. Marie ressasse sa vie et libère son cœur. Seule sur scène, Mary Stuart, Isabelle Huppert, elle trace la trajectoire dramatique de son existence de reine déchue, la seule et unique Mary d'Écosse et des îles. Donc dans sa prison, où elle fut enfermée par Elisabeth, qui l'accuse d'avoir comploté contre elle, durant 18 ans, elle pense, elle écrit ses tourments du pouvoir, elle est recluse. Elle, une femme reine d'un temps, femme dépossédée de son pouvoir qui donna un discours en latin devant la cour dans la grande salle du Louvre, où elle affirma qu'une éducation dans les lettres et les sciences humaines était adéquate pour une femme. Elle retrace les petites choses du quotidien mêlées à sa vie de princesse puis de reine. Son adolescence en France, pendant le règne de Henri II, alors des voix d'enfants dans la bande-son accompagnent son ressassement. Ses épousailles avec François II, fils de Catherine de Médicis, puis son retour en Écosse, son mariage forcé avec Henri Stuart, cet enfant qu'elle voit à peine, le futur Jacques VI d'Écosse, la vie d'une reine, en somme. Reine catholique dans un pays devenu protestant, traitée avec défiance, puis jugée coupable du meurtre contre son mari et de complot contre sa cousine Elisabeth. Le cou enserré dans un col, la tête déjà décrochée du corps, Marie Stuart sera décapitée en 1587. Isabelle Huppert se déplace lentement, de manière saccadée sur cette scène épurée. Elle danse parfois, avec la grâce d'une petite fille, celle qui montra ses talents de danseuse, jeune fille. Elle avance et recule, aussi comme une poupée désarticulée et manipulée, au rythme de son tumulte intérieur. Derrière, son corps se découpe en ombre chinoise.
Voilà, c'est donc Isabelle Huppert dans Mary Said What She Said, un très bon résumé que vous venez de faire de cette pièce. Isabelle Huppert, on va donc avoir l'avis de nos trois historiennes et historiens. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Clive Plumosil ?
Alors, je pense que je vais être l'avocate du diable à cette table, parce qu'en fait, j'ai un rapport contrasté à cette pièce, parce que c'est effectivement une pièce, et je pense que j'ai presque préféré le texte de Séverine finalement à celui que j'ai entendu sur scène.
Quel grand compliment.
Merci. Mais je vais y revenir. En fait, donc c'est une pièce sur la folie, sur la marche vers la mort, sur les femmes brisées par l'histoire, qui s'incarne à travers le destin tragique de Mary Stuart, qui est un personnage parfait pour la fiction, hein, d'une certaine manière, Bob Wilson lui rend honneur. J'ai été fascinée par le dispositif scénique en ombre chinoise, comme le disait Séverine, les jeux de lumière, musique qui sont intrinsèquement liés. Enfin, c'est vraiment du théâtre d'image, hein, c'est le théâtre de Bob Wilson. Au passage, moi qui n'avais jamais vu ces pièces, j'ai découvert l'usage du cyclorama, donc cette surface de projection à l'arrière-plan de la scène qui permet de dessiner des profondeurs du temps que vit cette Mary Stuart, de sonder son paysage mental délirant au rythme d'une lumière feutrée, enfin de couleurs presque pastel, parfois très très sombre, et qui fait que pour moi c'était plus en fait une sorte de performance artistique qu'une pièce de théâtre, une approche très plasticienne du spectacle. Du spectacle vivant, et donc du coup quelque chose de beaucoup plus conceptuel que émotionnel. Et le problème pour moi principal pour rentrer dans la pièce et pour en sortir, ça a été la musique qui est omniprésente, répétitive.
De Ludovico Einaudi.
Einaudi, exactement, mais moi que j'ai trouvé entêtante et parfois beaucoup trop grandiloquente. Et par ailleurs, dans cette atmosphère extrêmement belle, extrêmement lisse, mais avec une musique qui prend la tête littéralement, je trouve que le texte était vraiment au second plan. Alors c'est un texte très dense, baroque peut-être, mais moi je l'ai trouvé abscon, c'est-à-dire que j'ai pas évident à comprendre, et du coup moi j'ai pas compris. Et j'ai eu l'impression, mais je trouvais ça beau aussi, que l'actrice se battait avec son texte, elle se bat aussi avec les voix off, elle se bat avec la chorégraphie, c'est beau, hein, c'est comme si elle se battait avec l'histoire. Mais moi j'en retire, deux jours après avoir vu la pièce, du coup une sorte de cacophonie, j'ai perdu le fil d'une certaine manière. Je me demande ce que ça apporte à la compréhension du passé et à la compréhension du personnage de Mary Stuart, cette pièce. Donc je m'interroge sur ce que ça transmet. Je suis pas sûre d'avoir été finalement émue, mais sonnée, mais en même temps c'est un résultat. Et du coup je m'interroge aussi sur ce que ça dit des femmes sous la Renaissance. Est-ce que finalement on arrive à comprendre si les femmes ont bien eu une Renaissance, comme le demandait John Kelly? Est-ce qu'on arrive à voir le poids du sexisme et du patriarcat dans le sort qui est fait à cette Mary Stuart? Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui plaque du coup un référent historiographique qui est le mien. Et voilà, donc je m'interroge.
On voit quand même, Clive Plumosil, la folie. Oui. Évidemment, qui ressurgit de ce destin dramatique. Donc, sur cette problématique des femmes.
Qui serait une hystérie réactive.
Voilà, réactive au moment où quelques femmes ont peut-être le pouvoir.
Mais oui, tout à fait.
Pascal Horry, à propos de Mary Said What She Said de Bob Wilson au théâtre de la ville, à l'espace Cardin, avec Isabelle Huppert.
Clyde vient de nous dire que c'était la première fois qu'elle voyait un spectacle de Bob Wilson. Donc, ce qu'elle vient de définir, c'est Bob Wilson. Donc, effectivement, on imagine que c'est clivant. Il faut préciser que le théâtre où c'est donné à Paris, c'est le début d'une tournée à travers l'Europe. Ça se terminera à Lyon, je crois, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. C'est le théâtre où Bob Wilson a été révélé non seulement au public français en 1971, mais même au public mondial, parce qu'il avait, il était assez peu porté par les États-Unis. C'est pour ça qu'il est devenu addict de la France. Donc c'est vrai, on prend Bob Wilson en bloc. C'est quand même un spectacle de Bob Wilson avec une extraordinaire actrice. Bon, voilà. On ne peut pas dire que le rapport à l'histoire soit central. Je ne connaissais pas, même si j'ai vu quelques spectacles à partir de textes de lui, Daryl Pinkney. On sent bien que Daryl Pinkney, c'est quelqu'un avec lequel Wilson joue. Bon, Wilson, on a parlé d'ombre chinoise, tout à fait d'accord. Cyclorama, présence de la musique, ça c'est quand même très important. Mm-hmm. Parce que Einaudi, c'est une sorte de fil glace italien. Je ne vais pas simplifier. C'est une superstar dans beaucoup de domaines. Il n'est pas très connu en France. Donc, là aussi, c'est à prendre en bloc. Quant à Mary Stuart, alors, je pense que la lecture féminine ou féministe passe quand même. C'est-à-dire qu'on a effectivement une reine, mais victime. Et ça.
Victime d'une autre reine.
Et victime d'une autre. Ah, mais bien entendu. Ah, bah,
du coup, coup, ça, on retrouve la compétition et la rivalité ouais, féminine sûr. Qui est un peu le leitmotiv oui, du traitement de cette période.
Oui, mais c'est pas très central. Elle est victime de tout, y compris bien sûr d'elle-même. Et un des moments les plus forts dans un texte qu'on ne comprend pas toujours, qui est répétitif et qui est donc une matière dont se sert Wilson. Hein, c'est voilà, il se sert du texte, il se sert du corps de l'actrice et tout ça. Moi, ça m'avait vraiment ému. On l'entend deux ou trois fois, parce que c'est souvent répétitif là aussi. Dieu a décrété que mon fils n'aurait aucun souvenir du visage de sa mère. Il faut préciser que ce fils que Séverine a mentionné, Jacques VI d'Écosse, va être le successeur de la reine Élisabeth. C'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est pas aussi manichéen qu'on peut penser. Et c'est vrai qu'il y a Isabelle Huppert. Et enfin, personnellement, je veux dire que c'est une des plus prodigieuses performances d'actrice que j'ai jamais vues dans ce spectacle.
C'est absolument vrai. Caroline Dockey.
Je suis du côté de ceux qui prennent Bob Wilson en bloc. C'est un bloc et je l'accepte et je l'apprécie beaucoup. En fait, moi, je trouve que ce spectacle est envoûtant précisément parce qu'il est un spectacle total, qu'il conjugue de manière remarquable les ressources qu'offrent le texte, l'espace et la lumière. Et la musique, et la voix, et le corps de l'actrice. Et ce long monologue, il est captivant parce qu'il dit, et aussi par le, enfin je réinsiste là-dessus, par le remarquable travail de sculpture de la parole et de la voix, puisque l'actrice, elle sculpte le texte, elle martèle les mots quand il s'agit de suggérer le ressassement de la femme de pouvoir vaincue. Elle projette des phrases de manière très tranchante quand il s'agit de montrer cette femme qui ne capitule pas et qui se bat pour sa postérité. Elle psalmodie et elle crie aussi quand il s'agit de suggérer la révolte et en fait la terreur face à la mort, quoi qu'elle en dise. Donc je reviens pas sur la chorégraphie le travail de chorégraphie qu'a expliqué Séverine Yatar. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est que cette pièce, elle parle des grands enjeux classiques de la passion du pouvoir, les stratégies dynastiques, la place de pion qu'on y assigne aux femmes dès leur naissance et tout au long de leur vie, le grand marché matrimonial politique, pour reprendre le titre qu'a donné Stéphane Zweig à l'un des chapitres de sa biographie de Marie Stuart. On y voit les passions tragiques qui s'attachent au goût du pouvoir au XVIe siècle comme aujourd'hui, l'ambition féroce, le clanisme, la trahison, le meurtre politique, les guerres de religion. Donc c'est aussi une pièce contemporaine. Mais cette pièce, elle évoque aussi les aspects intimes des passions d'une femme de pouvoir. Dans son monologue, Marie Stuart, elle détaille des sentiments, des impressions et des souvenirs qui sont des souvenirs de sensorialité. Ouais. Ce qui est un enjeu
de son enfance en particulier.
Voilà, ce qui pour nous est pour les historiens, pour l'histoire des mentalités, c'est un enjeu important. Hein. Il y a des choses qui renvoient à l'histoire du corps, des sentiments. Elle évoque le plaisir d'apprendre à danser à la cour de France contre le puritanisme qui est en train de s'installer en Écosse et en Angleterre. Elle évoque ses relations avec ses trois maris successifs et la sensualité qu'elle connaissait avec l'un d'eux. Elle explore un peu, Pascal Horry l'a rappelé, le vécu de la maternité quand elle parle de son fils. Elle dessine aussi les contours et l'importance. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Elle dessine les contours et l'importance de l'amitié féminine. Quand elle évoque à diverses reprises ses trois dames de compagnie, ses trois suivantes qui s'appelaient toutes les trois Marie. Et on sent à quel point ces réseaux de l'amitié féminine étaient importants dans l'expérience d'une femme de pouvoir au XVIe siècle. Quand Marie Stuart rappelle, et même elle ressasse la trahison de l'une de ses dames de compagnie, Marie Fleming, qui a précipité son échec politique et qui a hâté sa condamnation.
Pascal Horry.
Après la représentation, j'entendais des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui s'interrogeaient en disant « Mais c'est quoi cette histoire, cette Marie-histoire » C'est-à-dire que l'intelligence historique ne gagne pas un centimètre, mais c'est pas... ce n'est pas le propos, je pense.
C'est le propos de cette table ronde.
Et c'est même extraordinairement plus explicite que le regard du sourd. Enfin, donc, mais il reste un spectacle qui met en scène quand même une femme dans une situation tragique porté par une extraordinaire actrice, effectivement fardée, il y a un côté presque théâtre japonais à un certain moment, ombre chinoise, c'est évident. Elle devient vampire à un certain moment. Elle est immobilisée en vampire avec une lumière verte. Bon, c'est le spectacle dont nous parlons, ce n'est effectivement pas le cours d'histoire. Il vaut mieux à ce moment-là relire, bien que ce soit dépassé, Stefan Zweig.
Clive Plemozil, à propos de Marie, c'est What She Said, donc à l'Espace Cardin à Paris.
Mais en fait, c'est ça, je suis très sensible à ce que Pascal et Caroline viennent de dire, parce que j'en suis intimement convaincue, mais je me demande si je suis convaincue de ça parce que moi-même je suis historienne et que du coup je retrouve dans cette pièce ce que j'ai pu savoir par ailleurs, ou si des gens en dehors de l'histoire peuvent s'approprier cette pièce de la même façon. C'est pas grave, à la limite, la beauté d'un objet, c'est la multiplicité des interprétations, des appropriations et des lectures qu'on en fait, mais du coup, du point de vue de l'histoire, et je suis sensible à cet argument du centimètre avancé par Pascal, du point de vue de l'histoire, je me demande ce qu'on comprend. Et est-ce que du coup, on ne peut pas retomber dans les travers de ces femmes qui, dès lors qu'elles sont proches du pouvoir, deviennent folles, hystériques, condamnées à mort, et du coup, d'avoir cette approche victimaire et tragique qui permet plutôt de voir l'histoire comme quelque chose que subissent les femmes que comme elles agissent. Alors, peut-être là est le propos, mais je m'interroge en fait sur ce que...
Le fait de faire un biopic comme ça sur scène, évidemment, on aurait tendance à dire, ah bah oui, c'est une pièce d'histoire. Mais non, oui, c'est pas une pièce d'histoire. Mais à son insu, Bob Wilson fait de l'histoire. Et Isabelle Huppert aussi nous raconte quelque chose de l'histoire et de l'histoire des femmes et des reines et des pouvoirs.
Incorporée dont parle Caroline, effectivement, celle-là, c'est celle qui me touche.
Pascal Horry.
On leur a noté, Emmanuel, en cette fin de saison, que c'est le type de débat qu'on a toujours eu.
Oui, c'est une
fiction. Et deuxième remarque. Marie Histoire, de son vivant, avant même son exécution, qui en a fait une martyre pour les catholiques, mais plus généralement, des conditions absolument atroces. Enfin, toutes ces exécutions sont de toute façon atroces, mais là, particulièrement, bon, le bourreau qui s'y reprend à trois fois
comme les trois
parce
mains.
Qu'il est ivre, bon, hein. Mais,
ça, on le saura pas en allant voir la pièce de Bob Wilson, parce que ça n'est pas évoqué.
Voilà. Oui, c'est
on
ça.
Sait enfin, tout, on n'a pas tout savoir.
On sait qu'elle aime les lapins, par
contre. Voilà. Mais, c'est que dès son vivant, c'est un personnage qui fait rêver. Elle a une vie tellement entre guillemets romanesque, même pour les contemporains, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On comprend qu'on continue à fonctionner sur le mythe.
Caroline Doki.
On continue à fonctionner sur le mythe et la richesse, la beauté de cette pièce est aussi la pluralité des interprétations, puisque si je pars sans doute des mêmes prémices que Clive Plemozil, j'arrive pas aux mêmes conclusions. En fait, pour moi, c'est je n'entends pas la plainte d'une femme. J'entends une femme qui a participé à tout ce qui rend les jeux de pouvoir implacables, les stratégies, les querelles dynastiques, les alliances et les complots. J'entends une femme qui essaie de faire entendre une voix singulière où elle explique, réinterprète elle-même son implication, ses ambitions, elle réinterprète elle-même ses projets.
Oui, elle mettait en ligne sa propre existence.
Voilà. Et en fait, elle est en train de construire son image pour la postérité. À un moment, elle dit « En ma fin est mon commencement, la postérité ».
C'est vraiment un texte d'elle.
Mais encore faut-il entendre le texte.
Voilà. Alors, il paraît que certains soirs, on l'entend moins bien. j'ai eu la chance...
On n'entendait pas tout, honnêtement, voilà, mais c'était pas le problème.
Moi, j'ai eu la chance fin mai d'entendre. Et c'est ce que j'ai trouvé très contemporain dans cette pièce. Elle donne une voix pleine et entière à une femme qui a été vaincue, qu'on essaie de faire taire par l'emprisonnement et la condamnation à mort, et qui pourtant ne capitule pas, n'abdique pas et se bat pour la postérité.
Et puis, il faut ajouter, elle s'écrit, elle parle, elle écrit sur scène, mais... Marie Stuart a beaucoup écrit. Ouais. Elle a eu des enseignants.
Même des poèmes.
Elle a appris la poésie avec Ronsard. C'est une femme lettrée. Et comme je le disais en introduction, elle pense qu'il faut que les femmes soient éduquées et pas uniquement à la broderie.
Et on lui coupe la tête, alors.
voilà, c'est donc avec Isabelle Huppert, Marie Said, What She Said. La mise en scène est signée Robert Wilson. Le texte est de Darin Pinkney. La musique de Ludovico Einaudi. Et c'est au Théâtre de la Ville, Espace Cardin à Paris, jusqu'au 6 juillet, mais évidemment, il y aura une tournée dans l'Europe entière ensuite, puisque la pièce partira au Festival de l'Almada à Lisbonne, ensuite au Festival grec de Barcelone, etc., etc. Donc, la dernière pièce avec Isabelle Huppert.
Au palais idéal du facteur cheval.
Pour lui, c'est imaginer Versailles, quoi. C'est son Versailles à lui.
Le palais germe dans la tête du facteur et pousse à la place des haricots.
Il mettait de côté ses pierres le long de ses tournées de facteurs de 33 km Et il venait les rechercher le soir avec sa brouette. Il les ramenait la nuit dans son potager. Alors évidemment, on l'a pris pour un fou, hein. Et ici, quand même, il faut imaginer qu'on est en 1900. Et là, il plante dans son potager une mosquée. Il écrit en dessous de la mosquée « Entrée d'un palais imaginaire ». Ici, on a le temple hindou. On ne sait pas si c'est un hymne aux religions. Et en même temps, dans son palais, il écrit « Il y a un siècle, les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident ». On sent bien le discours universaliste, on sent bien l'amour des peuples. Et en même temps, il ne parle pas de peuple, il parle de fées.
Nous sommes des fées et nous scrutons le monde de la tour du palais.
Deuxième fiction de cette table ronde fiction dans la Fabrique de l'Histoire ce vendredi, donc une bande dessinée, un roman graphique, plutôt une bande dessinée d'ailleurs, signée Pandolfo Risberg chez Casterman, Enferme-moi si tu peux, et la référence n'est pas évidemment une référence au film avec Leonardo Caprio, mais là les personnages et les héros de cette bande dessinée sont six personnages relativement peu connus, même si le facteur chômage en fait partie. Ils ne sont pas tous connus, mais ils font tous partie de ce que Dubuffet avait évoqué sous le titre de l'art brut. Je peux les citer. Augustin Le Sage, Madge Gilles, le facteur cheval, Marianne Grousevski, Judith Scott et Aloïse. Et voilà donc une bande dessinée qui raconte ces six personnages qui, et c'est assez subtil, se rencontrent entre chacune de leur histoire, puisqu'ils deviennent une sorte de communauté vivant ensemble et discutant ensemble, alors qu'ils ne se sont pas connus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais néanmoins, ils participent de ce grand mouvement dit de l'art brut à partir de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Qu'est-ce que vous avez pensé, Pascal Horry, de cette bande dessinée « Enferme-moi si tu peux ».
D'abord, j'ai pensé que le doigt de Dieu, par exemple d'Emmanuel Laurentin, était vraiment maître de tout.
Et pas des horloges.
Pas seulement des horloges, puisque Isabelle Huppert a été l'actrice principale du film que j'avais vu avec ravissement à l'époque, c'était en 1975, de Liliane de Kermadec, consacré à Aloïse.
Ah, bravo.
Voilà. Bon. Alors, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg sont tous les deux dessinateurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Risberg, mais en fait, ça a été dessiné à quatre mains et scénarisé sans doute principalement par Anne-Caroline Pandolfo, mais quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même éditeur, Casterman, vient de sortir il y a quelques semaines une autre monographie sur un artiste d'art brut, Petit Pierre. Alors, est-ce que c'est le signal de quelque chose? En fait, c'est effectivement à Dubuffet qu'on doit l'expression art brut. Je sens qu'en ce moment, du fait de l'anglo-saxonisation, il y a un terme qui est en train de se substituer, c'est outsider art.
Ah oui.
Clairement. Mais en tous les cas, il y a des catégories qui ont été créées de l'extérieur pour réunir évidemment des... Alors, on va dire des artistes, moi ça ne pose aucun problème, au contraire j'en rajouterai même une couche, mais qui évidemment viennent de quantités d'origines. Vous avez par exemple là une surreprésentation des artistes médiumniques, hein, qui sont non seulement inspirés, mais qui affirment, et qui ne veulent pas qu'on les contredise, qu'ils créent sous les consignes, l'inspiration d'un génie qui est près d'eux. Donc c'est tout à fait fascinant, on imagine... Que d'ailleurs un certain nombre de médiateurs, ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'il y a la figure de ces créateurs, mais aussi des médiateurs qui les sortent de entre guillemets, l'enfermement, dans tous les sens du mot, où ils sont. Et en général, il faut qu'ils croisent sur leur chemin un médecin qui dit « Ah mais ne jetez pas ces dessins-là, on va au contraire les protéger ». Et c'est d'ailleurs intéressant qu'effectivement, il y a une préface par l'héritier de Dubuffet, qui est maintenant à la retraite, mais enfin Michel Thévaux, qui est le fondateur du grand musée de la collection d'art brut de Lausanne. Alors, il faut préciser quand même que si on prend le facteur cheval, ça ne s'est pas passé comme on le dit dans l'album, c'est-à-dire que le facteur cheval n'a pas été découvert par les surréalistes. En fait, les surréalistes on rejoint la cohorte de cette petite minorité qui a dit mais c'est très intéressant. D'ailleurs, dans le cas de Cheval, c'est de l'architecture brute, c'est ce que Malraux a dit pour justifier le classement dans les années 60. Donc l'autre étape, dans les années 60, on a classé le palais idéal du facteur Cheval. Donc on sentait bien, avec la création du musée de Lausanne, qu'il y avait une entrée dans l'artification. Mmh. D'ailleurs, l'ambiguïté, c'est ça, c'est que on laisse entendre, mais c'est pas l'objet de l'album, que après il y aura le système culturel qui va s'en emparer. La dernière remarque que je voudrais faire, avant de passer la parole à mes collègues, c'est qu'il y a une théorie quand même dans cet album. On peut éventuellement la discuter. Mmh. C'est-à-dire qu'on survalorise cette dimension médiumnique ou assimilée. Cheval, à mon avis, entre un peu difficilement dans ça. Et d'autre part, il est clair qu'il y a une théorie qui est exposée à plusieurs reprises. Dessiner, c'était la porte qui ouvre sur le jardin. Réussir à ne pas s'adapter à une vie de rien. Bon, donc, au fond, le lieu du mal, c'est la vraie vie. Et heureusement qu'il y a ces fenêtres sur la vraie vie.
Alors il y en a certains quand même, Pascal Auric, qui sont enfermés, qui sont vraiment dans le milieu du mal.
Mais justement qui s'évadent.
Qui arrivent à s'évader, qui effectivement sont dans des lieux du mal.
Avec cette idée qui est la thèse centrale de cette bande dessinée, effectivement que cela permet de révéler une vie intérieure qui est beaucoup plus riche que la vie sociale qu'ils auraient pu.
Qui est toujours décevante,
etc. Caroline Douki, à propos de Enferme-moi si tu peux, de Pandolfo et Risberg.
Moi j'enchaînerai tout de suite sur ce thème. En fait, ce qui rassemble, c'est ces hommes et ces femmes qui ont vécu pourtant dans des milieux géographiques éloignés, dans des mondes sociaux distincts, dans des générations différentes, sont trois outre d'être rassemblés dans cette bande dessinée magnifique, ce sont trois traits qui me semblent importants. C'est au départ l'enfermement dans des structures asilaires, mais aussi dans la structure usinière, ou encore dans des tâches très codifiées de la société rurale, être paysan de père en fils en Pologne, les interminables et invariables tournées du facteur à pied dans la France rurale. La deuxième chose qui les rassemble, c'est de vivre très longtemps sans considération, ni pour leur existence, ni pour leur travail. Tous, à une échelle ou à une intensité certes variable, ont tout de même en commun l'expérience de l'indifférence sociale ou du mépris social et le sentiment d'être invisible, inaudible à jamais. Et le troisième trait commun, c'est qu'ils finissent pourtant par trouver, alors en découvrant par hasard la figure du médium, ou en se bricolant patiemment, comme le fait le facteur Cheval, une échappatoire par la création de leurs propres mains, et souvent par la réappropriation de leur force et de leur temps de travail. Augustin Le Sage, qui prolonge tous les jours le temps de travail au fond de la mine par l'activité artistique dans sa soupente, le facteur Cheval qui rassemble son matériau de construction et de décoration pendant les heures durant lesquelles il fait ses tournées de facteur sur les chemins drômois. Madge Gill qui dessine à l'encre sur des rouleaux interminables de papier dans sa cuisine pendant le temps qui, à l'époque, devrait être dû aux soins du foyer domestique. Aloïse qui échange du travail de repassage pour l'asile où elle a été internée contre du matériel et du temps pour peindre. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, je l'ai lu comme ça, cette bande dessinée très suggestive et très ouverte dans les interprétations qu'elle peut suggérer. Moi, j'ai vu dans ces trajectoires historiques quelque chose de propre aux sociétés contemporaines entre le 19e siècle et aujourd'hui, c'est-à-dire des personnages qui se sauvent bien sûr par la créativité, par l'activité artistique, mais aussi par la réappropriation de deux choses cruciales que nous a confisquées la société contemporaine industrielle dès le 19e siècle, et cela ne fait qu'empirer d'ailleurs, la possibilité d'espace de liberté au travail, la possibilité de maîtriser son temps, de maîtriser son rythme de vie. Et si je puis me permettre, une dernière remarque, et en fait en découvrant ces trajectoires individuelles qui sont souvent tristes à force d'exclusion, à force de domination, d'enfermement, sans espoir, et puis finalement ces trajectoires qui sont revigorantes quand il y a le déclic, quand il y a le tournant créateur qui se met en marche et qui les sauve, moi j'ai sans cesse pensé au travail de l'anthropologue et historien James Scott, que la Fabrique de l'Histoire a reçu la semaine dernière. Enfin, j'ai surtout pensé au livre de James Scott qui a été traduit en 2008 en français, qui s'appelle « La domination et les arts de la résistance », fragment du discours subalterne, où Scott montre très bien comment la plupart des formes de résistance populaire ne s'énoncent pas comme telle, et ne recouvre pas une organisation formelle très nette, mais se dessine en douce, en marge, parfois en mimant la folie, tout en étant au fond très subversif pour le pouvoir, et en étant un peu, et parfois beaucoup, réparatrice de la dignité des méprisés, des marginalisés, et c'est ce qui ressort de cette bande dessinée, c'est cette réparation aussi.
Enferme-moi si tu peux, de Pandolfo et Risberg, donc chez Casterman, Séverine Yatta.
Non, juste pour faire le lien avec Mary Stewart, bon, moi je ne ferais pas tout à fait le même lien. Quand j'ai choisi ces objets, peut-être sans le faire exprès, le lien, bah, vous parliez de forme de résistance populaire, il y a aussi une forme de résistance féminine, hein, on va y revenir. Il y a quand même trois artistes, il y a parité, mais il y a quand même trois figures de femmes qui, effectivement, grâce à la créativité, essayent de s'en sortir, qu'il s'agisse donc d'Aloïse, de Scott, ou de la dernière qui s'appelle, ça y est,
Madge Deal.
Non, la dernière, c'est Judith Scott.
Ouais, c'est Judith Scott qui embobine des objets et qui tisse.
Donc, qui utilise du textile.
Sa ville.
Clyde Plumosil, à propos de cette bande dessinée, Enferme-moi si tu peux, de Pandolfo et Risberg.
Bah, donc, réappropriation typique d'une routine féminine imposée à la ménagère qui, du coup, la déjoue et fabrique son espace de liberté. Moi, j'étais très sensible, effectivement, à cette BD, peut-être plus au dessin qu'au texte, qui arrive, mais qu'importe, en fait, d'une certaine manière, qui arrive, du coup, à restituer sans faire effet catalogue une communauté de destin qu'a très bien retracé Caroline. Une communauté de destin qui a pour point commun, quand bien même ils viennent d'espaces différents, de milieux différents, de présenter des individus qui arrivent à s'affranchir du périmètre imposé de leur existence. Et ça, j'ai trouvé ça très fort dans le dessin, de réussir à montrer comment on brise tout d'un coup la routine, on brise l'enfermement, qu'il soit physique, donc derrière les murs de l'asile, ou qu'il soit mental, ou qu'il soit social. Et je trouve ça extrêmement fort. J'aimerais du coup insister sur quelques planches pour parler du coup du dessin qui m'a particulièrement touchée. Et je trouve que ces planches arrivent à montrer à la fois l'expérience de la désaliénation de ces individus. Je trouve que le titre, en fait, c'est ce qui m'a le moins plu dans cette BD. Je l'aurais appelé Les Désaliénés, moi, personnellement. Oui. Petite proposition. je trouve que, par exemple, chaque portrait insiste sur les moments de point de bascule des artistes. Notamment, par exemple, pour Augustin Le Sage, entre la page 16 et 20. Et alors, c'est extrêmement intéressant. Donc, on montre les déclics de ces individus qui se font artistes par une sorte de nécessité vitale, de quelque chose qui sort du réel, du rationnel qu'impose ce siècle aux individus et qui devient une expression onirique de soi, où le corps parle presque à la place de l'individu. Et ces pages sur les déclics sont particulièrement frappantes. L'organisation des planches change, hein, on n'est plus avec la structure traditionnelle du gaufrier, les vignettes s'étendent, donc c'est à la fois le point de rupture pour les artistes, mais aussi le point de rupture dans la restitution graphique de leur trajectoire, qui permet de montrer comment cet art brut, c'est un art libéré, c'est un art qui se libère des formes, qui en invente d'autres. Et je trouve que c'est là où on voit la puissance de la BD pour réussir à restituer ce qu'a pu être cet art hors norme et ses trajectoires. Par ailleurs, puissance de la BD, je rebondirai sur ce qu'a dit Caroline à propos de James Scott et de ses arts de la résistance. James Scott, il parle de script invisible, et ce qui est génial avec la BD, c'est qu'on les voit, ces scripts invisibles de résistance. C'est qu'on les donne à voir par des formes, par des couleurs, expressions.
Qu'est-ce qu'entend James Scott par rapport avec cette expression script invisible?
Script invisible, c'est ce texte caché qui est celui, en fait, des acteurs politiques subalternes qui ne rentrent pas dans les schémas hégémoniques de la société. C'est-à-dire que quand bien même les gens parlent, on n'a pas la capacité de les entendre parce que c'est pas avec nos mêmes façons d'agir institutionnalisées. Et par exemple, je finis juste sur ça, une autre page qui est très belle, et pour rebondir sur ce que disait Séverine, c'est tout ce qui est consacré à la couture des femmes. C'est entre la page 40 et 45, et c'est ce qu'il y a aussi sur la couverture de la BD. C'est comment ce temps de couture, qui est un temps imposé aux ménagères, un temps de discipline des corps de l'être féminin dans le foyer domestique, peut être aussi un lieu d'évasion, parce que quand on coud, on pense. Et quand on pense, on peut s'évader. Et du coup, ce fil, ça devient quelque chose, non pas qui les ancre, mais qui au contraire peut quelque chose qui leur permet de s'élever dans les airs.
Et c'est d'ailleurs la couverture de cet album. Pascal Horry, brièvement.
J'ai un peu raconté ma vie, mais les auditeurs, auditrices de France Culture connaissent bien Henri Cueco. Et Henri Cueco a une femme, Marinette, qui vit toujours. Henri, malheureusement, a disparu. Et Marinette est, comme par hasard, une créatrice, comme son mari, mais qui s'est autorisée à être créatrice progressivement. D'ailleurs, Henri l'a poussée en ce sens. Et elle a travaillé sur le textile et sur le tissage, y compris des herbes. Et personnellement, j'avais été très heureux un jour de pouvoir organiser dans une ville de province une exposition Henri Cueco, mais en disant il y aura une exposition Marinette aussi. C'était la première fois qu'elle avait droit à une exposition autonome. C'est exactement ce qu'on voit dans l'album.
Oui, il y en a ces temps-ci justement des expositions Marinette Cueco qui sont ouvertes. Un dernier mot, Clarisse Lemesnier.
Je trouve que là, ce que peut la fiction dans cette BD, c'est de ne pas enfermer les personnages. Les personnages ne sont pas enfermés dans le dessin de la même façon qu'ils ne sont pas enfermés dans le récit, d'où l'intérêt d'ailleurs qu'ils discutent entre eux, entre les différents profils, et ça je tenais à saluer.
Un dernier petit mot, Caroline Doki, sur Enferme-moi si tu peux.
J'ai trouvé que cette bande dessinée qui nous plonge aussi dans... Enfin, il y a quand même une énigme existentielle dans ces six trajectoires d'évasion par l'art, donne aussi, dans nos échanges, on l'a vu, beaucoup à réfléchir aux facteurs historiques qui peuvent expliquer que les vies des exploités, des réprouvés, puissent à la fois, dans la même société, être fracassées par la violence des structures sociales et institutionnelles, et toujours dans la même société, à un moment donné, quand même trouver des interstices ou se recomposer ou se transcender. Enfin, ça donne vraiment à réfléchir sur la complexité du social quand tout semble pourtant fermé.
Pandolfo Risbjerg, donc Enferme-moi si tu peux, une bande dessinée chez Casterman.
Interdiction pour ce vol Nouméa à Paris de s'arrêter, comme prévu, à Sydney. C'est la réponse du syndicat australien des transports qui suspend pendant 24 heures ses services après l'essai nucléaire d'hier. L'Australie qui n'a pas apprécié du tout la concrétisation de l'initiative.
Il y a eu de nouveaux incidents pendant la tournée des rugbymen sud-africains en Nouvelle-Zélande. À Wellington, les Springboks venaient de gagner face aux All Blacks par 24-12 lorsque les manifestations ont commencé. Des milliers de manifestants anti-apartheid voulaient protester contre la politique de l'Afrique du Sud.
Premier ministre néo-zélandais, celui-ci a décidé de rappeler son ambassadeur à Paris. Au Japon, des manifestants ont escaladé le pays.
Et pour la première fois, la police avait eu recours à des chiens pour empêcher les manifestants de pénétrer sur le terrain.
Si vous n'avez pas le temps ni l'argent de vous rendre en Nouvelle-Zélande et de prendre l'avion avec vos bas de contention, vous pouvez toujours lire Fiona Kidman comme au cinéma, donc très grande romancière néo-zélandaise, traduite de l'anglais par Dominique Guablanquet chez Sabine Vespizer. Vous nous présentez ce roman, Séverine Yatta.
Alors, dans Comme au cinéma, ce sont aussi encore les femmes qui habitent le roman, donc de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Donc Irène est veuve d'un aviateur qui a disparu pendant la guerre et rencontrée sur les bancs de l'université. Elle devient bibliothécaire, comme Fiona Kidman, l'auteur de ce roman. Elle perd son emploi lorsque naît sa fille et quand son mari meurt, elle arrive avec sa fille Jessie sur une plantation de tabac pour travailler et survivre. Et on a une petite idée des conditions de vie et de travail sur ces plantations. C'est une passionnée de romans et elle décide finalement de se marier avec le propriétaire de cette plantation, Jock Ponson, rustre, violent propriétaire de la plantation, après avoir vécu quand même un amour fugace et passionné avec un autre travailleur dont en fait elle porte, on le découvre, un enfant. Et à partir de cette mésalliance se noue donc tout le drame de cette lignée durant un demi-siècle. Et Fiona Kidman, dans le même temps, fait revivre donc la Nouvelle-Zélande à la fois de son enfance, découpée en tableaux séquences, comme au cinéma.
14, je crois.
Voilà.
Et le titre, comme au cinéma.
Comme au cinéma. Et elle nous fait aussi revivre la société néo-zélandaise d'un point de vue politique, social. Elle nous parle évidemment des Maoris, de l'immigration. Et puis elle nous parle, de la condition des femmes, des grossesses non désirées, de la répudiation, des viols, des violences. Dans un pays qui fut pourtant le premier à donner le droit de vote des femmes, quand même, en 1893. Mais tout n'est pas que victime, puisqu'il y a des issues. Et on se demande d'ailleurs, l'héroïne, Belinda, ne serait-elle pas Fiona Kidman.
Oui, Caroline Dooky, qu'est-ce que vous avez pensé de ce « Comme au cinéma » de Fiona Kidman?
C'est captivant, comme au cinéma, souvent. à travers, en fait, les trajectoires de ces trois générations, il y a le déploiement de l'histoire de la Nouvelle-Zélande depuis les années 1950, ressort tout un tableau qui est loin d'être simple, hein, et qui est quand même souvent brossé au noir de la condition féminine en Nouvelle-Zélande dans la deuxième moitié du XXe siècle, et on pourrait dire dans d'autres sociétés européennes, par exemple. Moi, ce qui m'intéressait, comme historienne aussi, c'est que ce livre est aussi un roman d'histoire souterraine de la Nouvelle-Zélande, où le passé qui apparaît discrètement au premier abord nous ramène en fait à des structures chronologiques qui sont très profondes, très lointaines. Et parce qu'on y retrouve en effet l'histoire de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, de sa mise en valeur par des formes économiques liées à la colonisation, avec la plantation de tabac qui est au cœur du magistral premier chapitre qui ouvre le roman, mais qui renvoie en fait à l'exploitation coloniale de la Nouvelle-Zélande depuis la colonisation britannique. Et puis l'intrigue évoque aussi assez bien le relais vers d'autres formes économiques au début du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment le développement et la modernisation de l'exploitation minière dans certaines régions. À cette époque-là, ça évoque l'exode rural, le développement urbain. Et on aperçoit aussi la force dans le présent des formes spécifiques de constitution de la population de la Nouvelle-Zélande, qui est une population stratifiée par l'histoire et parcourue par des lignes de faille multiples, tantôt très visibles, tantôt insidieuses.
La question de la peau, la question de la couleur, la question raciale
est là, la question de l'immigration, la question aussi du refuge politique, hein, l'homme avec qui Irène a une aventure est un énigmatique aventurier dont toute l'aura tient au fait qu'on ne sait pas si c'est un réfugié politique des années 30, si c'est un marin déserteur qui a servi le nazisme,
un juif,
c'est ça. Et le tableau s'enrichit aussi de l'évocation de l'immigration italienne en Nouvelle-Zélande après la Deuxième Guerre mondiale.
Et qui est une évocation
aussi des lignes de faille religieuses, hein, parce que cette famille, elle vient en fait des circulations migratoires de l'Empire britannique, puisque c'est une famille d'origine écossaise, presbytérienne, qui méprise ses voisins italiens, catholiques.
Oui,
etc.
Il faut bien remarquer effectivement le très fort poids de la religion dans les vies de ces individus, donc entre les années 50 et aujourd'hui. Fiona Kidman, donc comme au cinéma. Clyde Plumosil.
Je souscris à tout ce qui a été dit. Je suis très sensible à ce roman qui dessine ce que l'histoire peut faire comme héritage aux individus, qui est très axé sur les questions de filiation et de transmission, qui pose la question des déterminismes sociaux et familiaux qui travaillent ces individus qui traversent donc cette Nouvelle-Zélande du 20e siècle. J'ai été effectivement aussi très sensible à cette composition cinématographique. Alors Belinda, une des personnages, est documentariste, donc il y a une forme de résonance comme ça entre la composition du roman et un des personnages qui est peut-être le protagoniste qu'on suit le plus dans le roman. Composition en séquence, comme des sortes d'épisodes qui du coup effectivement sont à chaque fois liés à chaque fois un arc narratif et puis un rappel historique et sociologique, et c'est extrêmement bien mené, même quand on n'y connaît rien à la Nouvelle-Zélande du XXe siècle, ce qui est mon cas. Donc on retrouve cette panique morale qu'éprouvent les Néo-Zélandais dans les années 50 à l'égard de leur jeunesse, notamment à l'égard des jeunes filles, puisque la question de la condition féminine et féministe de ces protagonistes est particulièrement forte. Donc il y a dans les années 50, j'ai découvert qu'il y avait cette obsession à l'égard des jeunes filles qui n'attendraient plus les avances des garçons, mais corrompraient même ces derniers. Et donc, évidemment, on a un cas de fille mère dans cet ouvrage. Le drame de cette condition féminine qui, près de 80 ans après avoir obtenu le droit de vote, se bat encore pour l'égalité salariale, contre la domination masculine dans le milieu du travail, dans l'espace de la famille, dans les rapports interindividuels les plus quotidiens qui se jouent dans l'espace public comme dans l'espace privé. Les réponses rebelles qu'ont pu apporter les femmes, mais des réponses qu'il a encore, ne sont pas nécessairement des résistances politiques de haut plan, mais des formes de subversion quotidiennes qui peuvent se passer même dans l'imagination ou dans le dialogue intérieur des actrices, des protagonistes. Mais voilà, on est comme au cinéma. Et puis bien sûr, entre-temps, on voit les questions des émeutes et des violences policières dans les années 80 lors du passage des Springboks d'Afrique du Sud, qui donc était liée à cette question de l'apartheid en Afrique du Sud. La question du nucléaire, il faut quand même rappeler l'affaire du Rainbow Warrior dans les années 80, qui justement, ce navire de Greenpeace qui a été coulé en 85 par les services secrets français à Auckland, donc du côté de la Nouvelle-Zélande, et comment les Néo-Zélandais se sont affirmés pour la première fois de façon indépendante sur la scène internationale en refusant le tout nucléaire. Enfin, on voit énormément de choses. Et puis enfin, bien sûr, cette question des ségrégations raciales et nationales, extrêmement subtiles, je trouve, dans le récit.
Pascal Horry, à propos de Fiona Kidman, comme au cinéma.
Rapidement, parce que j'adhère à tout ce que je viens d'entendre. Fiona Kidman est auteur d'un certain nombre, voire d'un nombre certain, de scénarios, de films et de téléfilms. Et on le sent bien, peu importe la cause ou la conséquence. Le titre anglais initial ne peut pas ouais. forcément être traduit par comme au cinéma, c'est All Day at the Movies, ouais. Toute la journée au cinéma. Mais bon, on sent bien dans quel sens on va. Alors, pour le coup, c'est un roman qui permet de comprendre l'histoire de la Nouvelle-Zélande, depuis même ses origines, ouais, en tous les cas, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a entendu là à l'instant un patchwork.
Un florilège,
etc. Et les Springboks, la tournée des Springboks, qui a duré 56 jours en 80, a été aussi un grand moment pour l'identité néo-zélandaise. Je signale, bien sûr, mais tous les auditeurs, auditrices de France Culture le savent, qu'à l'heure actuelle, il y a tellement peu d'icônes à quoi peut se rattacher la gauche mondiale. La première ministre néo-zélandaise me paraît comme un exemple, etc. Donc, il y a là quelque chose qui permet d'éclairer cette histoire, qui est par ailleurs absolument tragique, quand même.
Bien sûr.
Avec inceste, avec forme de domination masculine sur la femme, et puis domination économique, enfin, toutes les dominations se rejoignent. Il y a quand même, comme ça, peut-être grâce au regard de Belinda, qui est certainement Fiona Kidman, et puis en même temps une réalisatrice, il y a un petit brin de paille qui brille au fond des tables. Enfin, on sent bien, de génération en génération, des formes de libération.
De résilience,
oui, voilà. Et des discussions vers la fin, dans les derniers chapitres, tout à fait intéressantes, qui vont assez loin, y compris d'ailleurs ce que dit l'avocate de Janice, la vérité, c'est un concept intéressant. C'est une avocate.
Donc c'est un roman de Fiona Kidman, qui s'intitule Comme au cinéma, un roman traduit de l'anglais par Dominique Guablanquet chez Sabine Vespizer. Je rappelle que
Sabine Vespizer. Voilà, rendons hommage à cette éditrice.
Ce travail d'édition, effectivement. Rappelons que nous avons parlé dans cette table ronde fiction de la pièce au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin qui se joue jusqu'au 6 juillet, donc de Robert Wilson avec un texte de Daryl Pinkney et une musique de Ludovico Einaudi avec Isabelle Huppert, Marie Said, What She Said, et de la bande dessinée Enferme-moi si tu peux de Pandolfo Erisbjerg chez Casterman. Il est l'heure de retrouver traditionnellement le vendredi donc notre séquence Rétro News avec le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. C'était à la une et aujourd'hui nous suivons justement un tour du monde, celui d'un personnage en 1901 qui veut marcher sur les pas de Phileas Fogg et qui est suivi par le journal Le Matin avec beaucoup d'attention. Une lecture par Elsa Dupuis. C'était à la une.
Le Matin, 2 août 1901. Le tour du monde en 63 jours. L'arrivée à Paris. Délégué par Le Matin pour recevoir à son arrivée à la gare du Nord mon ami Gaston Stiegler à son dernier pas du tour du monde, je l'ai salué du titre très enviable de premier reporter du monde. Ce titre, il l'a mérité. Il a battu tous ses concurrents. Il est arrivé premier. Le premier, Le Matin, a eu cette idée du tour du monde. Et Le Matin, grâce à M. Gaston Stiegler, est arrivé le premier. Tous ceux qui se sont rués à sa suite, d'Europe ou d'Amérique, sont battus, quoi qu'ils puissent dire et quoi qu'ils aient prétendu faire. On ne saurait encore préciser à cette heure les conséquences d'un pareil match. Mais il faut tout de même que cette course inattendue à l'entour du globe présente un intérêt exceptionnel pour que la presse de l'univers entier ait suivi d'un œil aussi assidu les péripéties du voyage de notre collaborateur et lui ait suscité des concurrents aussi nombreux qu'inutiles. L'idée inventée par Le Matin était, paraît-il, comme je l'ai dit déjà dans un article, américaine. Les Américains ont voulu la reprendre. Les voilà vaincus. L'idée reste française. Et c'est bien certainement parce que cette idée qui paraissait si américaine est restée tout à fait française grâce à Gaston Stiegler que la foule se pressait et se précipitait hier à la gare du Nord. Le spectacle auquel nous avons assisté est inénarrable. Je ne saurais dire quel président de la République, quel grand personnage ayant accompli de mirifiques exploits a jamais été accueilli de la sorte. Stiegler devait donc arriver à 5h50, nous l'annonçâmes. Dès 3h, la gare du Nord était envahie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prendre le train, ou que débarquant d'un train, on ne pouvait plus sortir de la gare. Tous les privilégiés qui ont pu parvenir jusqu'à nous se dirigent vers l'endroit précis où, sur les indications du chef de gare, le wagon-salon de Stiegler s'arrêtera. C'est de là qu'il est parti, c'est là qu'il arrivera. Le tour du monde sera complet, à 1 millimètre près. Madame Gaston Stiegler m'ayant fait alors l'honneur de me demander mon bras pour la conduire vers son mari qui a 1/2 heure de retard, je la prie de ne point trop le gronder. « C'est la première fois que ça lui arrive, » me dit-elle avec le plus charmant sourire du monde. « Ordinairement, il est toujours en avance. » Enfin, le train est signalé. Le chef de gare vient à nous et nous annonce que nous allons assister à la fin du tour du monde. Je sens la main de Madame Stiegler qui s'agite sur mon bras. « Je veux, dit-elle, être la première à l'embrasser. » Le wagon de Stiegler se trouvant encore assez éloigné de nous, voilà qu'elle accourt, qu'elle bouscule, qu'elle saute, qu'elle bondit, qu'elle tombe dans les bras de Stiegler. Ils s'embrassent. Elle pleure. Mais lui, il est certainement très ému. Mais qui pourra le dire jamais? Qui pourra le dire? Le voilà, le petit homme en gris, ganté de jaune, sa lorgnette en bandoulière. Il vient de faire le tour du monde. On croirait qu'il vient de faire le tour du bois. On se rue sur lui. On l'étreint, on le serre, on l'écrase, on le pousse, on le retient, on se l'arrache. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'on me fera quand j'aurai fait quelque chose ?» Moi, j'avais un discours à placer. Depuis 1/2 heure, je me le mémorais et me le remémorais. « Ah bien, je ne lui ai rien dit du tout. Je n'ai pas eu le temps. On s'embrassait trop et on se bousculait trop. J'ose dire que c'est un beau morceau de littérature perdue. » Je l'ai embrassé, le petit homme en gris, sur sa joue en pomme d'api, et mon baiser a été suffisamment éloquent, car ce brave ami me l'a bien rendu. Et puis je lui ai déclaré, au nom du Matin en particulier et au nom du monde en général, qu'il était le premier journaliste de la Terre. Il est si modeste, ce globe-trotteur, qu'il n'y a eu que lui pour ne point le croire. Stiegler, pour la première fois depuis le commencement de son voyage, avoue qu'il est un peu fatigué. Madame Stiegler l'emmène. Je les accompagne. Et j'entends Madame Stiegler qui dit à son mari, des larmes dans les yeux, « Enfin, le voilà fini, ce tour du monde. Tu as abîmé un peu ton pardessus. » Gaston Leroux.
Et oui, quand Gaston Leroux était reporter pour Le Matin, c'était le 2 août 1901, le tour du monde en 63 jours, lu par Elsa Dupuis. Vous pouvez retrouver bien évidemment ce Rétro News, ce texte sur le site Rétro News de la Bibliothèque Nationale de France ou encore sur la page dédiée à de la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Swad Boukovza était avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et bien entendu, l'histoire continue sur d'autres...
partie de la grille de France Culture, en particulier ce soir, Matière à penser avec Patrick Boucheron qui continue de traiter de la question de la préhistoire. Et puis demain, Jean-Noël Jeannonnet avec Concordance des temps à 10h sur France Culture. On nous parlera de la fontaine au vif du présent. Quant à nous, la semaine prochaine, nous serons ensemble au Séverine Yatta pour évoquer l'histoire des relations, des organisations internationales. Effectivement, nous parlerons en particulier lundi avec Nicolas Delalande de l'Association internationale des travailleurs, dite Première internationale. Puis ensuite,
à l'occasion, en fait, du grand colloque qui va se tenir fin juin sur l'OIT, hein, puisque c'est
l'Organisation internationale
du travail. Les 100 ans de l'OIT, il y aura un grand colloque qui se tiendra fin juin. Et 1919, donc, on fera évidemment une émission sur l'OIT.
Ça sera mardi. Merci donc, et à la semaine prochaine.